Alors, j'affronte sans doute, comme beaucoup d'entre vous, collègues, chercheurs, l'objection qu'Aragon serait dépassé, moisi, comme dit gentiment Philippe Solers, à la limite un point de vue patrimonial, mais tout ça est classé, épuisé, au suivant. Bon. Ainsi va, n'est-ce pas, la mode, et notre colloque, bien sûr, proteste contre cette mode et nous invite à réfléchir aux conditions de la survie d'une œuvre majeure, autant qu'aux raisons de l'attachement que nous lui portons. Pourquoi n'en aurons-nous jamais fini, comme vient de le dire Luc, avec Aragon? Certes, lui-même se réclamait de circonstances qui sont évidemment disparues, encore que, n'est-ce pas, les luttes contre le fascisme, contre l'ouvriérisme, contre la marchandisation de la culture seraient-elles changées, auraient-elles disparu? La résistance à l'oppression et les ruses de la contrebande seraient-elles prescrites, obsolètes? Ou le souci de défendre et de porter à son plus haut niveau notre langue? Autant de motifs d'actualité dans ces questions. Et moi, je vois en Aragon le veilleur de quantité d'événements, certes, qui ne sont plus, mais la faculté de veille elle-même, son énergie, les moyens de la résistance, autant que l'exigence du style, demeurent imprescriptibles. Alors, quelques propos sur la présence paradoxale d'Aragon. On l'a déjà rappelé au grenier, c'est Luc qui le disait, je crois, l'Aragon fut un formidable journaliste. Activité périssable et d'ailleurs oubliée dans les éditions savantes de cette œuvre, Pléiade ne republiera rien, ou si peu, des articles de circonstances d'Aragon, en particulier du considérable gisement des lettres françaises, sur lesquelles dont tu nous parleras, Luc, et sur lesquelles tu prépares toujours ton beaucoup de publications. Alors, il est certain que l'information proprement dite se périme, par définition. Mais l'art, le métier ou le goût du journal lui-même, notre rapport aux événements, continue de nourrir de stimulantes réflexions où l'exemple d'Aragon mériterait de figurer et aurait quelque chose à nous dire. En bref, l'historicité d'Aragon ne se déclasse pas, ne le déclasse pas, sinon aux yeux des tourneurs de la mode ou des sectateurs d'une conception ridiculement étroite de l'histoire. Or, si cet auteur, et avec quelle vigueur, fut dans le siècle, prenant l'événement comme il le dit lui-même, à la gueule, et plus que d'autres engagés, imprudemment parfois, dans son bruit et dans sa fureur. Aragon fut aussi le poète et le théoricien de l'envers du temps, entre guillemets. Zeitlos, disait Freud, de l'inconscient, mais aussi des affects, des passions, des sensations vives, de la vague de rêve, du présent de l'énonciation. Immense domaine, charrié par la poésie. Et les proses poétiques qu'Aragon résume peut-être en déclarant à la préface du tome 4 de son œuvre poétique en 1974, J'appelle poésie cet envers du temps. Et là, il faut parler, et je parlerai de poésie dans cette conférence, puisque cette proclamation, alors qu'il m'a d'abord lu sur manuscrit au Cap-Brun en 1974, j'en rappelle très bien ce moment de lecture. Aragon vous assommait de ses lectures de ses derniers manuscrits, mais j'ai eu le privilège de tomber sur cette lecture-là. Cette phrase m'a longtemps fait rêver. Et je vous propose ici un peu d'y réfléchir. Pourquoi les poèmes du roman inachevé ne passent pas, notamment quand ils sont devenus chansons, et nous en entendrons ce soir. D'où tiennent-ils cette faculté de répétition? Luc disait cette faculté de hantise. Le ciel était gris de nuages. Ou bien, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Ou encore, vous n'aviez réclamé la guerre. Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, etc. C'est toujours au présent que ces vers nous arrivent, que ça nous enchante. Au présent renouvelé du chant, dans son énonciation toujours rediviva. Souvent, je me récite pour moi-même, Aragon, mentalement, intérieurement, ou avec toi, Odile, dans la voiture, nous recomposons des poèmes et des chansons, et prononçant ces mots si aigus, je les actualise. Quantité de situations, de sentiments privés et en vérité universels appellent ces phrases qui accompagnent ou chantent notre vie, nos vies. Toutes sortes d'occasions ou d'associations font toujours d'Aragon, à mes yeux, le contemporain capital. La poésie, cet envers du temps donc, est en effet perpendiculaire aux successions, aux fluctuations de la durée. Insensible aux modes, autant qu'au perfectionnement, aux substitutions successives du progrès. La mode, le moderne, la modernité, Aragon en a souvent traité dans des textes importants, Introduction en 1930, Le Modern Style dont je suis, et toujours en raillant cette prétention d'en être, en en prenant le contre-pied, assuré qu'il était de nager à la fois dans le courant de son époque, aux prises avec le monde réel, mais aussi bien occupé ailleurs, dans l'échappée infinie du songe ou le tumulte des sentiments. C'est par cette double face, ou ce double foyer, qu'Aragon, il me semble, peut encore nous toucher, nous convoquer, et que la transmission de son œuvre s'opère. Je pense, en disant ça, à une photo d'Aragon à la tribune d'une maison de la culture de 1936-37. Il est à la tête d'un mouvement antifasciste, n'est-ce pas? Il y a Gide à la tribune, il y a Paul Nizan, il y a tous les antifascistes notoires de l'époque, les grands écrivains. Et Aragon est accoudé sur son menton et il rêve. Et en même temps, il est présent à la conférence. Il est l'organisateur de la Maison de la Culture. C'est lui qui a préparé la conférence. Mais il arrange dans sa tête les démêlés de Mercadier et de Paulette, n'est-ce pas? Ou de, voilà. Il est en train d'écrire Les Voyageurs de l'Impérial. De même qu'en 1940, il écrit Aurélien. C'est hallucinant, n'est-ce pas, d'écrire Aurélien dans les années de la résistance, avec tout ce qu'il a sur les épaules de charge, de combat, de responsabilité. Aragon écrit Aurélien. Donc là, il est zeitlos, n'est-ce pas, il est hors du temps. Par cette double activité, il est amphibie. Alors, quelques mots d'abord sur la succession, puisque j'ai prononcé ce terme important pour lui. Le drame de la succession ou de la transmission mérite, que je crois, qu'on s'y attarde. Un écrivain classique, par définition, s'inscrit dans le temps long de l'histoire. Mais comment une écriture parvient-elle à s'étirer sur le long cours? En amont comme vers l'aval, Aragon aura eu le souci de recueillir ou de remettre au travail l'héritage des générations antérieures et de donner à ses descendants des matériaux pour édifier leur propre mémoire. Ce double mouvement, amont-aval, ne l'a pas toujours occupé. Les dadaïstes refusent d'entrer, refusent d'hériter autant que de transmettre. Spontanément zeitlos, adeptes de l'instant, du coup de foudre, du désordre ou du choc, ils se moquaient bien de durer, et lui-même sembla abonder d'abord dans leur sens, citation du libertinage, que toute démarche de mon esprit soit un pas et non une trace. Assez vite pourtant, il protestera du sein du surréalisme contre le mépris de la tradition. Et ses aventures de Télémaque, 1922, constituent un détournement sacrilège de Fénelon, certes, autant qu'un hommage sincère à Fénelon, chez lequel il avait appris à écrire, à lire, dit-il. D'une façon générale, Aragon se posera le plus souvent en gardien vigilant et exigeant de la mémoire. Il se montrera donc, plus que d'autres auteurs, soucieux du devenir des textes, mais aussi de l'équivoque ou de la douteuse alchimie littéraire. Il sait que la distraction, la déformation et le désordre sont l'issue la plus probable promise aux œuvres, comme dit l'allégorie des bouteilles à la mer présente dès les aventures de Télémaque et reprise avec quelle orchestration, avec quel brio, un pathétique particulier dans Blanche ou l'oubli. De quoi demande Gueffier, se demande Gueffier dans Blanche ou l'oubli, le narrateur de, linguiste de Blanche ou l'oubli, de quoi auront l'air ces pages aux yeux des superbes moutards, agrégatif, qui passeront en riant sans les voir, ou quand elles tomberont sous les lunettes d'un savant fou, prof de Cagne. De même, les individus ne survivent qu'à coup de discours ou d'histoires taillées à leur mesure par les successeurs, par définition infidèles ou soucieux de leur propre monde, non de celui auquel ils rendent hommage. Et la piété, ou ce qu'Aragon appelle l'affreuse bonne volonté critique, nous allons en faire preuve, n'y change rien, citation, un discours jeté comme un drap sur vous, c'est cela que vous appelez l'histoire. Chanson pour Madeleine. Au cadavre jeté ce manteau de parole, les poètes. Ou le dur discours du jeune Télémaque au vieillard mentor, pourtant professeur de dadaïsme, oxymore plaisant, n'est-ce pas, professeur de dadaïsme, je vous méprise pour votre imbécilité et vous m'appartenez dans l'avenir comme le passé appartient au présent qui en use, en rit et le gâche. Ça, c'est 1922. Les écrits de cette première période voudraient d'abord transmettre la colère, la fureur, et Aragon s'y emporte lui-même contre son probable classement littéraire. Citation du Conde Irène, « Tout cela finira par faire une histoire. Oui, pour les cons. Tout ceci finira par faire une histoire pour la crème, le surfin, le gratin, le copure chic des cons. » Alors, le titre Conde Irène est à prendre en plusieurs sens, n'est-ce pas? Rapidement, pourtant, l'inquiétude change de camp. Elle n'est plus temps d'être récupérée, citation précédente, que d'assurer la pérennité du message contre l'entropie ambiante. Comment retarder l'oubli inhérent à l'histoire et au passage des générations? Cette notion même d'oubli, dans le grand roman de 1967, présente deux visages, car il faut l'oubli pour permettre aux nouvelles générations de grandir ou d'inventer, et toute nouveauté suppose cette négligence, aussi injuste qu'elle puisse paraître. Mais comment d'autre part inventer ou grandir sans hériter, ni s'appuyer d'une manière ou d'une autre sur ceux qui nous ont précédés? Aragon, dans ses écrits littéraires autant que théoriques, fut donc ce fil analyste de cette nuit dorsale, c'est la phrase de Télémaque, n'est-ce pas, nuit dorsale qui s'adosse à Ulysse perdu, ce legs des générations sans lesquelles l'individu est promis au vertige. Et en annotant soigneusement ses œuvres romanesques croisées, autant que l'œuvre poétique, d'une foule de précisions, d'explications historiques, Aragon s'efforça longtemps d'en garantir le sens. Garantie illusoire dont il comprit plus tard la vanité, car chacun lit comme ça lui chante. Alors le chant, parlons-en, parce que le chant précisément est un facteur formidable d'actualisation et de mise hors du temps, d'envers du temps. Longtemps, les révolutionnaires chantèrent la colère et la guerre nécessaire, en reléguant l'amour, chose non bolcheviste, au rang d'un luxe bourgeois. Aragon, qui signe sous l'occupation François la colère, corrige ou complète cette colère en s'enivrant de lyrisme amoureux, et il voit dans la chance du chant un pôle de transcendance et d'organisation. La pulsion du chant exprime un désir oral primaire. Je pense que nous en parlerons souvent de ce désir oral primaire ici. Le chant répare les contacts rompus et le corps morcelé, de sorte que l'amour se chante comme une preuve orale de lui-même. Ils étaient la romance l'un de l'autre. Ou bien, vous êtes tout ce qui a jamais chanté dans ma vie, lit-on à l'épilogue d'Aurélien. Mais le désir oral est aussi celui qui ne laisse pas son objet à distance et le détruit. L'oralité du chant peut ainsi réveiller les démons d'une incorporation ou d'une identification primaire, autrement dit d'un amour où se mêlent intimement Eros et Thanatos. En 1965, le roman du chant bâti par Aragon autour de la cantatrice Fougère est aussi celui de la jalousie et de la mise à mort. Et je signale en passant, et j'en reparlerai, bien sûr, nous en parlerons, à quel point la mise à mort est un formidable roman. Le chant qui est la négation de la solitude poétique, insiste Aragon dans ses chroniques du Bel Canto. Gardons cette phrase en tête, pas négation de la solitude poétique. Celui qui écrit est seul, mais celui qui chante provoque l'attroupement, provoque l'écoute, provoque l'harmonie. L'hymne ne propose pas une connaissance à distance. L'hymne a une efficacité pratique, immanente à son énonciation. Son rythme et l'accouplement des rimes disent en direct l'harmonie et le lien, l'unisson des voix, prépare et scelle l'union des êtres. Si la révolution autant que l'amour se chante, c'est que le chant est un facteur de croyance, je crois que Johan parlera de croyance cet après-midi, donc de croissance, la vitamine du corps collectif. Toute musique me saisit, vous savez, dans l'étrangère, il existe près des écluses. Aragon vit transi par ses poèmes, chanteur par ses voix traversées. L'érotique, la poétique et la politique tournent ainsi dans un cercle. Le chant berce et entraîne, par-delà tout réalisme, il fortifie le corps individuel et social. L'harmonie sonore bande les corps de l'individu jusqu'à la nation. C'est la force coagulante du chant. On se groupe, on s'identifie, on s'active autour du chanteur. Chanter dans les supplices, chanter pour redonner du courage ou pour trouver des camarades. Le patriote, le militant, comme l'amoureux, s'arrache au chétif petit moi pour s'agréger au corps collectif. Le chant ne se réfute pas, il s'énonce au-delà du vrai et du faux, n'est-ce pas ? Il n'argumente pas, non plus que l'amour ou le rêve. Il enveloppe, il saisit. Toute musique me saisit. Le chant n'a pas simplement pour objet les héros et les armes, arma uirumque cano, préface de Les yeux d'Elsa. Il donne des armes aux hommes qui n'en ont pas. Que disait un poème comme « Les lilas et les roses » du Crève-Cœur, sinon que sous la botte allemande, et par sa seule énonciation de ce poème, la France continuait à donner de la voix. Le premier acte de résistance restaurait la parole face à la crétinisation escomptée par Vichy. Plus tard, On croisera dans le Fou d'Elsa, 1963, un musicien aveugle. Comme un de ces nombreux miroirs de la condition de l'auteur disposés en passant. Et le motif de la cécité amoureuse et politique ira grandissant dans les textes de cette dernière période. Un réalisme musical n'est-il pas une contradiction dans les termes? Car la musique qui nous berce peut aussi nous berner. Elle échauffe l'imaginaire et côtoie une certaine folie, dernier mot de la mise à mort. Le plaisir suffisant du chant, dans sa souveraine splendeur, se moque bien du principe de réalité. Le militant adhère par le chant, moins au terme d'une argumentation, que pour rejoindre un cœur. Et le bon militant n'est pas un raisonneur, mais un enthousiaste chanteur. En amour comme en politique, l'hymne nous emporte, il nous ravit, il rend la cause irréfutable, au-delà de toute discussion. Primaire au sens psychanalytique, le torrent du lyrisme et de la fabulation fait vivre dans l'exaltation, il distille un charme peu propice à l'esprit critique. Alors là-dessus, il y aurait énormément à commenter, à ajouter, mais évidemment, je ne fais ici que poser des jalons pour des discussions en cours ou à venir. Alors j'en viens à Zeitlos, soit l'envers du temps. Comme y insiste Philippe Forest, dans sa très belle... Alors, il y a une biographie récente, la troisième, d'Aragon, par Philippe Forest, mais il y a aussi le très beau livre que je vous recommande sur les vertiges d'Aragon, chez Cécile Defoe. Bien comme il y insiste dans cet ouvrage, Les vertiges d'Aragon, Aragon fut aussi le théoricien et le praticien du vertige, soit d'un présent et d'une désorientation panique. Cet écrivain, dans le siècle, scrupuleusement attaché aux circonstances, sut également pointer d'étranges moments de hors-temps. Par exemple, et c'est un passage qui, je crois, frappe tous les lecteurs de la mise à mort, dans la vue des faisans se laissant choir dans la modère débordée dans le conte Le Carnaval de la mise à mort. Bon, je n'ai pas le temps de lire les citations, mais c'est merveilleux, c'est hallucinant comme passage. Ou surtout, quand il nous narre l'épisode de sa propre mort à Couvrelles, août 1918, dans le roman inachevé. Il en tire quelques conséquences de cette vision spectrale de sa propre tombe avec Louis Aragon écrit dessus. Cette expérience spectrale n'est pas unique puisqu'elle marque aussi bien celle de Dunkerque, dont nous reparlerons, Marise et Aurélien, 1940, qui, alors dit le texte, ne fit pas de survivants. Il imagine que nous sommes tous morts à Dunkerque. Peut-être ne sommes-nous jamais revenus de Dunkerque. Et notre vie, ce sont des fantômes qui l'ont à notre place vécu, des squelettes déguisés à notre semblance, emmitouflés dans leur suaire, insensibles évidemment à tout ce qui a pu se produire par la suite, et qui traversent depuis ce temps le monde des choses visibles avec le ricanement de l'enfer. Cette hypothèse, si j'étais mort, n'est pas isolée, non plus que l'épisode de Dunkerque, c'est pas qu'il fait tache d'huile dans l'œuvre. C'est aussi l'hypothèse formulée au seuil du conte Murmure, pour moi, le plus bel écrit d'Aragon, n'est-ce pas, le conte broché dans la mise à mort, Murmure, dont il a fait une édition monumentale, illustrée de dessins de Picasso, n'est-ce pas, au Cercle d'Art. Le plus grand volume d'une bibliothèque aragonienne, c'est Murmure, n'est-ce pas, ça fait un mètre carré quasiment de bouquins. Enfin, ça, c'est assez compliqué à transporter ou à mettre dans une bibliothèque. Mais c'est dire l'importance qu'il attribue à ce texte Murmure, qui est un texte à mes yeux. Si j'avais un texte à sauver d'Aragon, je prendrais Murmure dans la mise à mort. Dans ces quelques textes d'une coloration spectrale, Aragon écrit donc sub specie mortis, sous le regard de la mort. Et son écriture y gagne quelques longueurs d'avance ou de survie. D'une certaine manière, Aragon mourut plusieurs fois au fil de son orageuse existence. Et je me rappelle qu'ici même, en 1978, Wolfgang Babilas a fait sa conférence sur Aragon et la mort. Aragon, la thanatographie. En réponse à la biographie, n'est-ce pas, la thanatographie d'Aragon. D'une certaine manière, Aragon mourut plusieurs fois. Il connut de nouvelles naissances. La lettre de Drieu La Rochelle à Jacques Doucet du 6 novembre 1924 mentionne, il faut lire cette lettre, elle est merveilleuse, elle est très paradoxale, elle est recueillie dans l'œuvre romanesque complète du tome 1 Pléiade, page 1152-53. Il mentionne, Drieu, les paupières crispées d'Aragon, sa discipline monacale et sa méditation perpétuelle de l'absolu. On songe aux moines qui ont un crâne dans leur cellule et qui vivent sous le regard, sous le specie mortis. Eh bien, Aragon échappe aux circonstances par le poinçon, le punctum d'une énonciation qui tranche dans la durée. point de capiton entre lui et nous, présent énergumène. Celui qui écrit ainsi ne meurt pas. Sa voix reste vive. Un roman comme Aurélien analyse bien ces effets de présence, ces effets de réel qui suspendent l'action ou la narration. Ce qui ennuie le lecteur ordinaire dans le Aurélien, tous ces suppléments métalinguistiques que développe aussi Blanche et l'oubli, sont moins manchantes et sont bien dignes de nous retenir. Aragon nous raconte certes dans Aurélien une touchante intrigue amoureuse qui ne débouche d'ailleurs pas. Enfin, pardonnez-moi pour le verbe déboucher, c'est absurde. Mais en même temps, il nous raconte surtout les conditions de fixation de devenir mémoriel de cette histoire. Claudel louait dans ce roman, Aurélien, le poème en prose. On pourrait de même y remarquer l'insistance de la mort, de l'amour, du Zeitlos et tout ce qui relève de l'envers du temps. De fait, Aurélien nous propulse dans cet envers. Il est impossible, par exemple, de reconstituer la simple chronologie des actions successives. Les personnages flottent, comme fait leur conscience du temps. Et pour aggraver ce brouillage, vous savez qu'Aragon a, réécrivant son texte pour l'édition de 66, décalé d'un an toute l'histoire. Alors, 23 devient 24, 22, 23, et en fait, il ne tient pas compte des mentions extra-diégétiques qui en sont barbouillées, n'est-ce pas, qui sont fautives. Bon, et donc, la chronologie, Aragon s'en balance, c'est pas comme Zamora, les couleurs, il s'en balance. Bon, voilà, une espèce de brouillage bizarre, hein. Parce que les personnages, comme l'auteur lui-même, peut-être sont ce rêveur définitif qu'Aragon célébrait déjà dans Une vague de rêve, 1924. Plus précisément, il s'agit avec Aurélien, et dans cette histoire, de rendre compte des jours de stupeur, d'accablement, d'inconscience ou d'attente amoureuse auxquels se limitera à jamais la vie de ce couple paradoxal. Par exemple, avec le jeu des parenthèses qui s'ouvrent, se chevauchent, cascadent, mais ne se referment jamais tendrement sur la prison des bras. Le trouble identitaire abonde, à commencer par le jeu virtuose du discours indirect libre, tellement libre parfois qu'on ne sait plus clairement qui parle, qu'on ne démêle plus les fictions du simple cours des choses. Comment comprendre par exemple une phrase comme « Bérénice la vraie » au chapitre 1 « Bérénice la vraie », bon, point d'interrogation. Ces décompositions primaires et les farandoles de la mondanité suggèrent un moi émietté, bien difficile à construire. À reconstruire. La chronologie d'Aurélien n'est pas régulière pour une raison essentielle à cette aventure faite de rêverie, d'anamnèse, d'anticipation et de représentation parasitant la présence. Son héros lui-même s'y embrouille. Le temps pour lui obéit moins au calendrier qu'à la météorologie des jours ou de l'âme. Plus accompli en cela que les autres romans, Aurélien s'écrit ainsi moins au passé que dans un temps suspendu, qui lui assure auprès du lecteur son pouvoir de hantise, ce que Claudel résume très bien. On pourrait sur ce point le rapprocher des communistes pour leur réécriture au présent accentué, Maryse nous en parlera sûrement, qu'Aragon compare à un effet de zoom, de passage à l'écran large, le passage au présent accentué. Très intéressant la notion de présent accentué. On pourrait y revenir longuement. Si l'histoire, la durée, la temporalité s'accompagnent nécessairement d'une mise en ligne, ou d'une orientation plus ou moins rigoureuse et normée, on sait que le Zeitlos, ou le processus primaire en nous, déjoue toute inscription spatio-temporelle, et ce débordement propre au rêve peut aussi caractériser l'irruption de la peinture, ou de l'image dans le texte, ou encore l'élargissement, l'écran large, venu de la rime. Alors sur l'écran large, je voudrais maintenant parler de la rime, qui donne un écran large à chaque mot, et ça, c'est, enfin au mot de la rime, et ça c'est très intéressant à dire. Résonance de la rime. Raison et résonance de la rime. Ut pictura poiesis. Alors, je prépare ton terrain. Ut pictura poiesis. La poésie comme la peinture, Horace. Bon. Quoi de commun entre la spatialisation picturale, la mise en tableau, la mise en espace, l'œil existe à l'état sauvage, incipit du surréalisme de la peinture de Breton. Enfin, d'un seul coup, l'œil se délinéarise. La peinture, on ne la lit pas. On ne lit pas un tableau. Il n'y a pas de... Lire un texte, c'est entrer en haut à gauche et finir en bas à droite, dans notre culture. Bon, la peinture, il n'y a pas d'entrée. Bon. Quoi de commun entre la spatialisation picturale et la délinéarisation, la spatialisation, propre à la mise en rime ? Aragon fut un formidable travailleur de la rime. Et ceci n'est pas assez souligné, je trouve. Mais qu'est-ce que ça veut dire, travailleur de la rime ? La rime rabat l'axe narratif du syntagme sur la concaténation sonore des paradigmes. Correct ? Pour parodier son ami Jacobson. Jacobson, Amand Elsa, n'est-ce pas ? Elle surligne, la rime, l'énonciation par le bonheur musical de la rencontre des sons signifiants, qui est aussi un enrichissement des signifiés, car toute bonne rime est sémantique. La rime nous rappelle, en somme, que chaque mot manque à lui-même, tant qu'il n'est pas appareillé, tant qu'il n'a pas trouvé son complément ou son double. Aragon dit sa boucle d'oreille. Très jolie, sa boucle d'oreille. Il y a dans cette mesure une puissance d'appel érotique de la rime, dont Aragon aura énormément joué, en se définissant comme un homme-rime ou écho, qui ne se réalise que dans la copule du couple. Le nouage de la rime évoque toujours ce nouage du couple, ou du nous, le nouage du nous. La rime intervient comme une troisième articulation de la parole, un impératif de liaison entre les mots qui, disait André Breton, font l'amour. Aragon, pour sa part, remarque combien la rime et le rythme appellent l'actualisation de la voix et du chant, qu'il définit comme, je le disais, négation de la solitude poétique. Dans la rime, déjà, les mots cessent d'être singuliers ou solitaires, n'est-ce pas ? Un nous actif et mobilisateur. Cette exigence de la rime et du chant, comme sur d'autres scènes, cette exigence de la peinture, fait d'Aragon un auteur transpersonnel ou transgénérationnel. Son « je » est un « nous ». Son écriture agit comme une proposition de liaison ou un appel. Répété ad nauseam dans cette déclaration d'amour à Elsa, on peut entendre cet appel au-delà du bruyant amour dans le recours aux mythes, aux archétypes romanesques, au monde charnel qui nous façonne et nous relie en deçà de nos individualités. La critique de l'individualisme est inséparable dès les années 20 de cette défense de l'infini, titre fort équivoque mais crucial. Très tôt, Aragon, pour Aragon, exister, ex-exister, comme écrit François Julien, s'était échappé à nos pauvres limites d'espace, de temps, d'identité. C'était en appeler d'une circonstance finie et bêtement donnée à un fond, F-O-N-D-S, riche d'infini, d'effroi et de vertige régénérateur. Vertige, comme le souligne Philippe Forest. Or, chaque circonstance est porteuse de ce fond infini qui double chaque parole, de cet écho qui ne cesse de gronder et d'ouvrir chaque texte d'Aragon à une suite indéfinie, jamais achevée d'interprétation. C'est ainsi que Grenade assiégée, 1492, le fou d'Elsa, peut faire rime ou écho à un encerclement semblablement tragique en 1942, et que les dates miroitent l'une sur l'autre. Ou que la perte de leur royaume par les Andalous sonde aussi, dans les pages les plus fortes du fou d'Elsa, la perte non moins déchirante de l'utopie révolutionnaire pour l'auteur et ses camarades. Citation du fou d'Elsa, « Aveugle et sourd, qui n'entend point l'écho que répond l'homme à l'homme dans les ruines du temps démantelé. » Et donc il y a de bonnes métaphores ou de bonnes rimes à trouver, non seulement entre les mots, mais entre les situations, entre les circonstances, entre les époques, entre les individus, etc. Allez, j'en termine par une demi-page qui me reste à vous oraliser sur « Défendre l'infini », titre fort énigmatique de ce roman impossible et kilométrique, qu'Aragon, dit-il, brûla en 1927, mais évidemment, il n'a pas tout brûlé, et le feu dont je parlais dans l'ouverture continue de flamber. Il est essentiel d'examiner, chez un auteur en général, son rapport au fond, F-O-N-D, F-O-N-D-S. Le fundus en latin, c'est le fond d'une bibliothèque, le fond d'un musée, c'est-à-dire la réserve, les ressources. Soit à ce qu'il ne maîtrise pas, et qui affleure au fil de son écriture comme un sursaut, une source des profondeurs. Les hasards, les rejetons des pulsions et des rêves, les déchirures de l'affect ou de la passion. Ce matériau est omniprésent dans l'œuvre d'Aragon, dont certains livres, Le Paysan de Paris, La Semaine Sainte, semblent écrits du point de vue de ce fond. Le Paysan de Paris est écrit du point de vue du décor, n'est-ce pas, du point de vue du... C'est pas du personnage, il n'y a pas de personnage. C'est le décor est le personnage, le fond est la forme. C'est très intéressant. Cet humus nourricier que dans Blanche sous l'oubli, il appelle la terre noire de l'âme ou de la parole, une page très célèbre, magnifique de Blanche sous l'oubli, consacrée à la germination des trèfles entre les pavés de la cour du Moulin. C'est par cet humus, étymologie d'humanité, hein, il me semble évidemment, éminemment zeitlos, l'humus, que nous communiquons le mieux, indépendamment des notes en bas de page et des préfaces, entre guillemets, explicatives. Voici le temps, enfin, qu'il faut que je m'explique. Vaste bobard, n'est-ce pas, quand Aragon dit « je vais vous expliquer », bon, Il maquille les brèmes, évidemment. Bon, l'actualité d'Aragon, à mes yeux, est d'avoir le plus souvent, sous les jeux de surface, cultivé ou laissé monter ce fond, FONDS, plein de ressources et riche en infini, qui nous touche à l'intime. Faire entrer l'infini, résume, on le sait, sa poétique, mais comment ? Une manière de définition à la fois ironique et grave, donnée par lui du style dans le traité du même nom, 1928, disait peut-être l'essentiel. Citation, « J'appelle style l'accent que prend à l'occasion d'un homme donné, l'écho par lui répercuté de l'océan symbolique qui mine universellement la terre par métaphore. » Alors là, il faudrait peser chaque mot. La connotation hugolienne n'est pas absente, ni de hasard. Écrire, c'est se brancher, se relier universellement, sans exception d'espace, de personne ni de temps. Par le court-circuit du style ou des provocations primaires, océaniques toujours, Aragon nous appelle et nous hante. Il ne nous a jamais quittés. Alors, au titre de la rime et des rythmes, je lirai pour finir un poème qui s'énonce ou s'énonce explicitement l'équivalence, au fond, des contraires, la vie, la mort, la parole, le silence. Et où s'entend ce mouvement perpétuel ou ce mouvement qui ne passe pas, le premier colloque s'appelle le mouvement Aragon, eh bien le mouvement ici, c'est la basse continue ou le bruit de fond, s'il en est, du cœur, rythmant la parole et les pulsations du rythme. C'est à la fin du Fou d'Elsa, au chapitre apocryphe des derniers jours, la toute fin, l'avant-dernier poème. C'est un poème cardiaque et si beau que me fut le jour. Je le lis parce qu'il est peu connu et qu'à mes yeux, il brille par-dessus tout. Apocryphe des derniers jours, et si beau que me fut le jour. Je bats la peau de l'altembour avec l'agilité de mes doigts. C'est une pluie, après tout, qui bondit sur le temps et le toit. Une grêle de grains durs tombant dans le silo du silence. Le sel au-dessus du feu, tout à coup, qui grésille et s'élance. Un mot pour cacher la peur insupportablement répétée. Une rumeur des troupeaux. Une mer assiégeant la jetée. Le pas du malheur et le poids du ciel, tout ce que l'homme porte, marche à la mort qu'on nomme vie. Ô frappement de chaque instant, entends la tempête éteinte, éteint ta lampe, avance vers ce qui t'attend. Qui vient vers moi qui me ressemble au miroir de ce matin blême ? Je bats l'altembour de mon cœur, montant à l'assaut de moi-même. De qui suis-je donc le soldat qui me fait mon propre ennemi ? Si je respire, c'est brûler du feu qu'en moi-même j'ai mis. Si je parle, je me détruis, et ce que je dis est ma cendre. Et la ténèbre devant moi, c'est ma lumière qui l'engendre. Et le néant naît de ma force, et j'ai ma perte dans le sang. Et je suis le ver qui me ronge, et le sépulcre où je descends. Et du plus loin qu'il me souvienne, et si beau que me fut le jour, c'est vers cette bouche de terre et sa morsure que je cours. Sombre altembour, rien ni l'amour ne ralentit ta batterie. Retombe enfin comme un drap lourd sur les amants et sur leurs cris. Roule ton bruit sur les parfums où les baisers se décomposent, sur les charniers et sur les lits où se défont toutes les choses, corps enlacés. Plaisir lassé, bonheur toujours recommencé. La longue étreinte comme un chiffre dans la chair aux yeux versés. Ô vie, ô mort, n'arrête pas tes bruits égaux dans l'ombre égale. Frappe plus fort, d'autant plus fort que c'est ici le dernier bal des bras unis et désunis. Frappe la dernière insomnie, ô vie, ô mort, double déni. Que se fasse en nous l'harmonie.